Lizzie présente Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Ing. Lu par Camille Lamache. Pour ma famille. Chapitre 1. Lydia est morte. Mais ils ne le savent pas encore. 3 mai 1977, 6h30 du matin, personne ne sait rien hormis ce détail inoffensif. Lydia est en retard pour le petit déjeuner. Comme toujours, sa mère a placé près de son bol de céréales un crayon bien taillé et les devoirs de physique de Lydia. 6 problèmes, chacun coché. Sur le chemin du travail, le père de Lydia règle l'autoradio sur WXKP, la meilleure source d'information du nord-ouest de l'Ohio, irrité par le craquement des parasites. Dans l'escalier, le frère de Lydia bâille, toujours enveloppé dans la fin de son rêve. Et sur sa chaise, dans le coin de la cuisine, la sœur de Lydia écarquille de grands yeux, voûtée au-dessus de ses cornflakes, les mâchant un à un, en attendant que Lydia apparaisse. C'est elle qui déclare finalement « Lydia prend son temps aujourd'hui ». À l'étage, Marilyn ouvre la porte de la chambre de sa fille et voit le lit dans lequel personne n'a dormi. Le drap soigneusement plié au carré sous les dredons, l'oreiller toujours gonflé et convexe. Tout semble à sa place. Pantalon en velours jaune moutarde gisant en tas par terre, chaussettes solitaires à rayures arc-en-ciel. Une rangée de prix d'excellence à des concours de sciences sur le mur, une carte postale d'Einstein. Le sac en toile de Lydia bouchonné sur le sol de la penderie, le cartable vert de Lydia avachi contre son bureau. Un flacon de parfum Baby Soft sur la commode, une douce odeur poudrée de bébé flottant toujours dans l'air. Mais pas de Lydia. Marilyn ferme les yeux. Peut-être que quand elle les rouvrira, Lydia sera là, les dredons comme toujours tirés par-dessus sa tête, des mèches de cheveux s'échappant d'en dessous. Une masse ronchonne recroquevillée sous le couvre-lit qu'elle n'aurait curieusement pas vue jusqu'alors.
J'étais dans la salle de bain, maman. J'étais descendue chercher de l'eau. J'étais allongée ici pendant tout ce temps.
Évidemment, quand elle regarde, rien n'a changé. Les rideaux tirés brillent comme un écran de télévision vierge. Au rez-de-chaussée, elle s'arrête dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine, une main posée sur chaque côté du montant. Son silence dit tout.
« Je vais aller vérifier dehors », déclare-t-elle finalement. « Peut-être que pour une raison ou pour une autre. »
Elle garde les yeux rivés sur le sol, tandis qu'elle se dirige vers la porte d'entrée, comme si les pas de Lydia avaient pu creuser leur empreinte dans le tapis du couloir. Nat dit à Anna.
Elle était dans sa chambre hier soir. J'ai entendu sa radio. À 11h30.
Il s'interrompt, se rappelant qu'il ne lui a pas dit bonne nuit.
Est-ce qu'on peut être kidnappé à 16 ans ?
Demande Anna. Nat donne des petits coups de cuillère dans son bol. Les cornflakes se ratatinent et s'enfoncent dans le lait trouble. Leur mère revient dans la cuisine. Et l'espace d'une magnifique fraction de seconde, Nat pousse un soupir de soulagement. La voici, Lydia, saine et sauve. Ça se produit parfois. Leurs visages sont si semblables que lorsqu'on en aperçoit une du coin de l'œil, on la prend pour l'autre. Même menton de lutin, pommette haute, fossette dans la joue gauche, même ossature aux épaules frêles. Seule la couleur des cheveux diffère. Ceux de Lydia étant d'un noir d'encre au lieu du blond vénitien de leur mère. Nat et Anna tiennent de leur père. Un jour, une femme les a arrêtés à l'épicerie et leur a demandé
« Chinois ?»
Et quand, ne voulant pas rentrer dans les détails, ils ont répondu « oui », elle a acquiescé d'un air sage.
« Je le savais, à vos yeux. »
Puis, du bout du doigt, elle a tiré le coin de ses paupières vers l'extérieur.
Mais Lydia, défiant les lois de la génétique, a les yeux bleus de sa mère, et ils savent que c'est une des raisons qui font d'elle sa fille préférée, et aussi la préférée de leur père. Lydia porte alors une main à son front, et elle redevient leur mère. « La voiture est toujours là, » dit-elle. Mais Nat le savait déjà. Lydia ne sait pas conduire, elle n'a même pas encore de permis provisoire. La semaine dernière, elle les a tous surpris en ratant l'examen. Et leur père refuse de la laisser s'asseoir à la place du conducteur tant qu'elle ne l'aura pas réussi. Nat remue ses céréales qui se sont transformées en bouillie au fond de son bol. L'horloge du couloir fait tic-tac, puis sonne 7h30. Personne ne bouge.
« Est-ce qu'on va quand même à l'école aujourd'hui ?»
demande Anna. Marilyn hésite. Puis elle va chercher son sac à main et en sort un porte-clés d'un geste résolu. « Vous avez déjà raté le bus. Nat, prends ma voiture et dépose Anna en chemin. Puis, ne vous en faites pas, on va découvrir ce qui se passe. » Elle ne les regarde pas. Il ne la regarde pas. Une fois les enfants partis, elle prend une tasse dans le placard, tentant de contrôler les tremblements de ses mains. Il y a longtemps de cela, quand Lydia était bébé, Marilyn l'a un jour laissée dans le salon en train de jouer sur un édredon pour aller se chercher une tasse de thé dans la cuisine. Elle n'avait que 11 mois. Marilyn a ôté la bouilloire de la gazinière et, en se retournant, a découvert Lydia qui se tenait à la porte. Sa surprise a été telle qu'elle a posé la main sur la plaque brûlante. Une spirale rouge est apparue sur sa paume, et elle l'a portée à ses lèvres tout en regardant sa fille à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. Debout, sur le seuil de la pièce, Lydia était étrangement alerte, comme si elle observait la cuisine pour la première fois. Marilyn n'a pas songé au fait qu'elle avait raté les premiers pas de sa fille, ni au fait qu'elle avait grandi si vite. La pensée qui lui a traversé l'esprit n'a pas été « Comment ai-je pu rater ça ?» mais « Qu'est-ce que tu me caches d'autre ?» Nat avait fait ses premiers pas devant elle, se dressant, se dandinant, retombant, mais elle ne se rappelait même pas Lydia commençant à se tenir debout. Pourtant, elle semblait si stable sur ses pieds nus, ses doigts minuscules ressortant juste des manches bouffantes de sa grenouillère. Marilyn avait souvent le dos tourné, tandis qu'elle ouvrait le réfrigérateur ou faisait la lessive. Lydia avait pu commencer à marcher des semaines plus tôt, pendant qu'elle était penchée au-dessus d'une casserole, sans qu'elle en ait rien su. Elle a soulevé Lydia, lui a lissé les cheveux tout en lui disant combien elle était intelligente, combien son père serait fier d'elle quand il rentrerait à la maison. Mais elle avait l'impression d'être tombée sur une porte fermée à clé dans une pièce familière. Lydia, toujours suffisamment petite pour qu'elle la porte dans ses bras, avait des secrets. Marilyn avait beau la nourrir, la baigner, lui glisser les jambes dans son pyjama, il y avait déjà des zones de sa vie qui lui étaient cachées. Elle a embrassé Lydia sur la joue et l'a serrée contre elle, tentant de se réchauffer contre le petit corps de sa fille. Maintenant, Marilyn boit une gorgée de thé en se rappelant sa surprise. Le numéro du lycée est punaisé au tableau de liège à côté du réfrigérateur. Marilyn saisit la carte et le compose, entortillant le fil autour de son doigt tandis que le téléphone sonne. « Lycée de Middlewood, » dit la secrétaire à la quatrième sonnerie. « Dottie à l'appareil. » Elle se souvient de Dottie, une femme trapue qui porte encore en choucroute ses cheveux d'un roux délavé. « Bonjour, » commence-t-elle. Elle hésite. « Est-ce que ma fille est en cours ce matin ?» Dottie fait un petit claquement de langue impatient. « À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ?» Elle met un moment à se souvenir de son propre nom. « Marilyn. Marilyn Lee. Ma fille est Lydia Lee, en classe de seconde. Laissez-moi consulter son emploi du temps. Première heure de cours. » Une pause. « Physique niveau première ?» Oui, c'est exact, avec Monsieur Kelly. Je vais envoyer quelqu'un vérifier dans la salle de classe. Un bruit sourd retentit, tandis que la secrétaire pose le combiné sur son bureau.